OK, alors j'ai fait un petit ajustement au niveau juste du plan de cours, dans le fond. J'ai reporté le panneau. Possiblement qu'on va faire juste un panneau, je vais voir, là. Mais à la fin complètement du cours, je n'avais pas trouvé le temps de bien préparer les gens que je voulais avoir. J'ai en tête qui j'aimerais avoir ici pour le panneau et je n'avais pas eu le temps de bien les préparer. Donc, ce qu'on fait ce matin, c'est qu'on termine la partie sur le célibat avec le contentement. Et puis, la semaine prochaine, on commence sur les fréquentations. C'est bon? Ça vous va? C'est une leçon un peu plus courte aussi ce matin. Des fois, on prend des rabbit trails puis, avec des questions, puis finalement, c'est plus long, puis c'est correct, mais on devrait réussir à rentrer ça quand même dans le temps ce matin. Alors, ce matin, on parle ensemble du contentement. Évidemment, lorsqu'on pense au célibat, cet aspect-là nous vient naturellement à l'esprit. Mais je vous dirais que c'est un peu malheureux qu'on l'associe plus avec le célibat qu'avec le mariage ou qu'on l'associe plus avec le célibat qu'autre chose, parce que c'est une des plus grandes vertus chrétiennes, le contentement. C'est définitivement une des plus grandes vertus. Chaque fois qu'on ne vit pas le contentement, beaucoup de choses sont révélées sur notre cœur. Beaucoup de choses sont révélées sur notre relation avec Dieu, sur notre relation avec ce qu'on voudrait avoir, ce que nous croyons qui nous contenterait. Et donc, ça parle énormément de nous. Donc, tout le monde vit, tout le monde lutte avec le contentement et avec le besoin de grandir dans ce sens-là. Ce qui est particulier dans le cas du célibat, c'est la forme que vont prendre les idoles du cœur pour les célibataires. D'accord? Alors, vous allez le voir tout à l'heure dans le passage dans Luc où je vais prêcher dans Luc 3, entre autres. Quand Jean-Baptiste invite à la repentance, il va répondre à des questions de la foule. Des soldats viennent poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous la repentance? Des collecteurs de taxes viennent poser des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous la repentance? La foule en général pose des questions. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous la repentance? Mais c'est un petit peu la même chose avec le contentement. D'accord? Chacun d'entre nous, on est appelé à le vivre, mais dépendamment du contexte, de notre réalité, des bénédictions, des épreuves, des appels que Dieu place sur nos vies, le contentement et les idoles du cœur vont prendre des formes différentes. Ça va jusque-là? D'accord? Donc, ça va être différent. La personne qui est mariée, puis qui se dit, la personne qui est célibataire, puis qui se dit, je vais me marier, donc je n'aurai plus à poursuivre le contentement, est bien naïve, est très, très naïve. Elle ne sait pas c'est quoi le mariage, d'accord? Parce qu'il va y avoir du contentement à vivre là. Mais c'est différent. C'est d'autres épreuves. Et je ne veux pas dénigrer ce matin le contentement qu'il y a à rechercher dans le contexte du célibat, d'accord? Parce que Paul parle carrément et dit, si vraiment tu ne peux pas, mais tu te maries. C'est carrément comme ça qu'il dit dans Paul, dans la lettre aux Corinthiens, d'accord? Mais c'est simplement pour dire, les idoles du cœur prennent des formes différentes. Ça peut être dans le cadre de mon travail, puis dépendamment du genre de poste que je vais occuper. Les idoles qui peuvent se présenter à un employé qui est assez bas en termes d'autorité dans l'organisation, les idoles qui vont se présenter là ne seront peut-être pas les mêmes que celles qui vont se présenter à celui qui est PDG de l'entreprise. D'accord? Les idoles qui vont se présenter à celui qui a un compte de banque qui déborde puis qui se promène en voiture luxueuse ne sont peut-être pas exactement les mêmes que celui qui n'a pas de quoi manger. D'accord? Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Et ça, il faut apprendre à discerner ça. Il faut apprendre à discerner ces choses-là. On va parler dans le contexte du célibat ce matin plus précisément. D'où vient ce langage-là, cette notion-là d'idole du cœur? Dans l'Ancien Testament, le concept d'idole est super présent, mais on l'associe constamment à des divinités. N'est-ce pas? Donc, c'est des divinités dans l'Ancien Testament. Puis là, on arrive dans le Nouveau Testament. Il achève. C'est l'automne. Merci, Paul. Merci pour cette belle interprétation poétique. C'est l'automne. Les feuilles sont tombées, il y a beaucoup vanté. C'est quand même, faites pas de monter. Oui, c'est ça, OK. On arrive dans le Nouveau Testament avec Paul. Puis, je vous dirais que c'est Paul qui va le plus, comme souvent c'est le cas, c'est lui qui est le plus clair, c'est lui qui nous aide à décortiquer des concepts le mieux. Et donc, dans sa lettre aux Romains, c'est lui qui nous aide à voir que les idoles, c'est pas seulement des divinités païennes, mais c'est toute chose qui va venir prendre la place dans notre cœur que Dieu devrait occuper. Donc, parfois des choses, souvent des choses très mauvaises, qu'on va désirer, qu'on devrait pas désirer, mais parfois des choses très bonnes aussi, qu'on va désirer plus qu'on ne devrait les désirer, d'accord? Et donc, on va établir une corrélation entre notre bonheur puis notre possession de cette idole-là. Puis là, on va dire, tant que j'ai pas ça, il n'y aura pas de bonheur possible. À ce moment-là, même si c'est un désir légitime, d'accord? Puis vous serez bien attentifs dans le message ce matin, Jésus va aller 40 jours dans le désert. La nourriture pouvait être présentée, devenir comme une idole pour Jésus. C'est quand même légitime après 40 jours d'avoir faim, il me semble. Et pourtant, le diable va s'en servir pour transformer ça. D'accord? Pour essayer de faire tomber le Seigneur. Romains 1, 24, 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. D'accord? Donc, l'adoration qui était vouée à Dieu s'est tournée vers la créature dans différents aspects, que ce soit la sexualité, que ce soit simplement l'autorité sur ma propre vie. On peut dire qu'une grande partie de la pensée humaniste est une forme d'idolâtrie. Lorsque j'élève la raison humaine au-delà de la révélation divine, par exemple, d'accord? Ça devient définitivement de l'idolâtrie. Juste une parenthèse à cet égard-là, le concept puis le langage, le mot idole est rentré dans l'Église ici beaucoup. Essayez toujours de garder à l'esprit que vous parlez une autre langue, vous parlez en langue quand vous n'expliquez pas ces choses-là. Parce que vous pouvez vous mettre à vous servir de ce langage-là, même avec des non-chrétiens. Il faut vraiment que vous compreniez c'est quoi l'idée qui est derrière ça, là, d'accord? Et donc, lorsqu'on le fait ensemble, ça peut devenir un langage très cru. De la même manière qu'à être centré sur l'Évangile, ça peut être complètement vide, cette affaire-là, si on ne comprend pas de quoi on parle bibliquement, d'accord? Alors, de quoi on parle ici, c'est les idoles du cœur. C'est des désirs légitimes ou illégitimes qui deviennent débalancés et j'en viens à la conviction que je ne peux trouver mon contentement en Dieu ou dans la volonté de Dieu pour moi, mais j'ai besoin de ça. D'accord? Alors, je vous donne un exemple que j'ai déjà donné à quelques reprises. Mes enfants ont été longtemps, Bastien et Jade, ont été longtemps des idoles dans ma vie, pendant très longtemps. Peut-être que vous m'avez déjà entendu le dire, je m'excuse, je vais radoter un peu, mais je trouve que c'est très, très fort et très clair comme image. Alors, moi, lorsque je priais pour la protection pour mes enfants, voici comment je priais. Je ne le formulais pas comme ça, mais la prière de mon cœur, c'était ceci. « Seigneur, je sais que tu es bon, je sais que tout ce que tu veux est parfait, mais si jamais ta volonté c'était de venir m'enlever mes enfants, je te demande de ne pas faire ta volonté, je voudrais protéger mes enfants de ta volonté. » D'accord? Donc, il y avait une limite pour moi dans ce que j'étais prêt à accepter comme bonté de Dieu et sagesse de Dieu, si Dieu devait, par exemple, venir m'enlever mes enfants. Là, pour moi, j'aurais eu énormément de difficulté à croire que Dieu est bon et que Dieu est sage. Vous allez me dire, c'est humain, bonhomme. Oui, je comprends. Mais moi, je ne vis pas juste dans la sphère humaine. Ça, c'est la chair, c'est correct, c'est le monde, c'est humain. Non, je suis appelé à être comme Christ. Alors, humainement, je peux le comprendre. Mais si je veux devenir à l'image de Christ, Christ, c'était 40 jours dans le désert, moi, c'était mes enfants, d'accord? Et il a fallu que Dieu me conduise à un endroit, à un moment, où j'ai dit, Seigneur, ils sont à toi. C'était vraiment une œuvre spirituelle puissante dans ma vie. Ça a été un moment tournant dans ma vie chrétienne, comme on en a peu dans une vie chrétienne. Puis j'ai juste remis mes enfants au Seigneur. Puis c'était une œuvre de l'Esprit en moi. Ça a changé énormément ma marche avec Dieu. Ça n'a rien changé dans mon amour pour mes enfants. Vous comprenez? Ce que ça a changé, c'est dans mon amour pour Dieu. Ça va? C'est bon? Donc, les idoles du cœur présentent un énorme défi pour tout chrétien, prenant différentes formes, que nous soyons hommes, femmes, célibataires ou mariés. Quelles sont les idoles du cœur dans la vie célibataire? Je m'excuse, j'ai une petite faute d'orthographe. On va en énoncer quelques-unes, d'accord? Par exemple, l'idole du mariage, c'est-à-dire je suis appelé à reconnaître le mensonge qui transforme une chose belle et bonne en idole. Si je crois que mon bonheur se situe dans le mariage, j'ai mal compris c'est quoi l'appel du mariage. Je vous avoue que juste le travail que je fais pour préparer ce cours-là puis étudier, ça me donne vraiment le goût d'enseigner sur le mariage parce que je réalise à quel point combien il y a de gens qui se marient sans comprendre c'est quoi l'appel du mariage. Ils s'en vont vraiment là pour leur bonheur, ils s'en vont pas là pour servir Christ. Ben oui, ils s'en vont là pour servir Christ, les chrétiens font juste ça. Mais comprenez ce que je veux dire? discerner entre un désir, encore une erreur, sain et une requête centrée sur soi. Alors, qu'est-ce que je suis en train de chercher dans ce désir-là du mariage? Il y a de la place pour une quête du bonheur personnel. Hein? Souvent, on veut essayer de régler des tensions bibliques avec des approches simplistes. D'accord? Alors, par exemple, si j'annonce l'Évangile à quelqu'un en partant de ce que la personne désire, il y avait toute une approche qui disait, tu pars des besoins ressentis de la personne, puis tu vas l'amener tranquillement à Christ. Fait que je vais dire, bon, mais la personne, elle veut être heureuse. Fait que je vais annoncer l'Évangile en disant, voici comment tu peux être heureuse. Là, il y a des chrétiens qui s'interposent. Là, ils disent, wow, c'est pas ça, c'est qu'elle veut être sauvée de l'enfer. Oui, c'est vrai aussi. Moi, personnellement, quand je me suis converti, dans mon cas, moi, c'était pas pour être sauvé de l'enfer, c'était pour être heureux. Puis à notre époque, il n'y en a pas beaucoup ici que c'était comme, je m'en vais en enfer, puis je vais être sauvé de l'enfer. La majorité d'entre vous, c'est parce que vous étiez malheureux, puis vous avez cru que le bonheur était là. Quelques-uns d'entre vous, peut-être, vous avez dit, écoute, je pourrais être heureux sans toi, Dieu, mais j'aimerais ça être au ciel aussi pour l'éternité avec toi, parce qu'en tout cas, je vais être malheureux de l'autre bord. Fait que, tu sais, je me repens, je vais être sauvé de l'enfer. D'accord? Les deux invitations, les deux appels sont là dans les Écritures. Jésus partait souvent des besoins ressentis de la personne, puis il s'en allait vers Dieu, d'accord? Il révélait des idoles, admettons, dans le cœur de la personne. Pourquoi est-ce que je fais toute cette grosse parenthèse-là? Là? C'est parce que c'est correct de prier pour être heureux. C'est correct de prier, de demander à Dieu de nous donner un conjoint pour nous marier, parce qu'on pense que notre bonheur se trouve là. Il n'y a pas de problème jusque-là. Est-ce que tout mon bonheur se trouve là? Est-ce que mon bonheur va être encore présent si Dieu m'enlève ça? Est-ce que mon bonheur est encore possible si Dieu ne me donne pas ça? Et c'est là que j'apprends à discerner, oups, où est-ce qu'on est dans ça? Et ce ne sont pas des choses simples, d'accord? C'est des choses que Dieu, c'est un processus de transformation que Dieu fait dans nos cœurs. Je vous l'ai dit pour mes enfants, écoutez, d'après moi, ça fait 8 ou 9 ans que j'ai vécu ça, ça veut dire que Jade avait déjà 6 ou 7 ans. Puis je me rappelle, c'était clair pour moi, parce que chaque fois que je la voyais aller prendre l'autobus, je faisais toujours la même prière. Inavouée, mais ma prière, c'était « Seigneur, protège-la de ta volonté, si ta volonté, c'est que tu viennes les chercher aujourd'hui. » C'était toujours ça. Mais je le voyais bien que c'était inadéquat, c'était pas correct, c'était un péché, c'était mal. Je le voyais. Je n'étais pas capable de débarrer cette porte-là. Je disais « Seigneur, c'est des idoles, mais j'y arrive pas. » Donc, c'est un processus. Fait que je prie pour un conjoint et progressivement, j'apprends à mettre dans ma prière « C'est quoi ton appel, Seigneur, pour moi? Qu'est-ce que tu veux pour moi? » Il me semble que ça serait une source de joie, ça serait une source de bonheur, ça serait une source d'épanouissement. Je comprends que je pourrais apprendre à être heureux en toi seulement, dans le célibat, mais il y a ce désir-là, il y a cette aspiration-là, puis tu es un bon père. Fait, qu'est-ce que tu veux pour moi? Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Et j'apprends à cheminer avec Dieu. Puis là, on est dans l'exemple très, très concret de l'appel au mariage, au célibat, tout ça. Mais c'est vrai pour ma carrière, mon travail, mon service dans l'Église. Où est-ce que je vais aller habiter? Est-ce que je reste en ville ou est-ce que je m'en vais en campagne? Moi, personnellement, la banlieue, là, j'aime pas ça. Si vous me demandez si j'aime la banlieue, j'aime pas ça. J'aime Longueuil parce que Dieu m'a envoyé en mission à Longueuil. Moi, j'aime la ville. Si vous me demandez où est-ce que Yannick veut vivre, c'est pas ici. Moi, je veux vivre en ville, sur le plateau, baigné dans la culture, boum, à fond. Oh, ça, c'est mon bonheur. Dieu ne m'a jamais permis. Je l'ai considéré. J'ai eu des invitations à l'implanter, à aller servir, à aller m'occuper de plus grosse église à Montréal. Chaque fois que j'ai mis ça dans la prière, j'ai considéré ça avec Dieu. Pas de paix avec cette affaire-là. D'accord? Dieu vous en aurait donné un meilleur. Faites soin avec ça. Mais vous comprenez? Donc, c'est un processus. C'est dans la prière. Puis ça s'applique dans tous les domaines de ma vie. Dieu m'aime. Puis Dieu est très conscient et sensible aux aspirations qu'il y a dans mon cœur. Et dans la prière, dans la lecture, la méditation de la parole, j'apprends à discerner par une œuvre de l'Esprit dans ma vie, en discutant avec les amis autour. J'apprends à discerner, est-ce qu'il s'agit d'une idole? Ce n'est pas une transaction. OK, Seigneur, je vais te le donner, puis après ça, tu vas me donner un conjoint. Vous comprenez? Ce n'est pas une transaction que je fais avec Dieu. Oui, mais si j'abandonne ça, tu sais... Il ne m'en donnera peut-être jamais parce que je vais arrêter de prier pour ça. Non, je peux prier pour ça toute ma vie, même si je dis, OK, pour l'instant, ce n'est pas ça mon appel, c'est clair. D'accord? Discerner entre un désir sain et une requête centrée sur soi. Fonder sa vie sur les certitudes que nous donne la parole de Dieu plutôt que sur nos désirs et nos rêves, qu'ils soient saints ou non. Donc, il y a des choses qui sont affirmées dans les Écritures et qui font partie de la volonté pour tous les chrétiens. J'ai un bon père qui m'aime, qui a préparé des bonnes œuvres pour moi, que je sois marié ou que je sois célibataire. Je vais fonder ma vie au quotidien, bâtir mon contentement, bâtir ma joie sur les choses qui sont certaines, d'accord? Qui sont clairement là dans les Écritures pour tous. Et mes aspirations, mes rêves, mes désirs, je vais les traiter comme tels, comme des aspirations, des rêves, des désirs que j'apporte quotidiennement au Seigneur dans la prière. D'accord? Pour moi, il n'y a pas vraiment de désir trop futile pour que je puisse le présenter à Dieu. J'ai déjà raconté à l'Église comment j'avais, à un moment donné, je m'en allais sur la route, puis je vois un petit Suzuki 4x4 qui est là, puis je dis, « Oh, ça serait tellement cool d'avoir un petit 4x4. » Je voulais comme assouvir ça, puis moi, j'aime les petits chars, puis « Oh, ça serait cool, tu sais. » Puis juste comme dit ça au Seigneur, ça serait le fun. J'ai oublié ça complètement. 2 ans plus tard, même pas réalisé quand j'ai fait ça, qu'entre-temps, mon père a acquis un petit Suzuki 4x4, il m'appelle, il dit, « Hey, je te le donne, tu veux-tu? » Oh, OK. Pour moi, il n'y a rien de futile, d'accord? Mais je fais, là, c'est futile comparativement au mariage, là, l'exemple que je viens de donner, mais j'apprends à fonder ma vie, mon bonheur, mon contentement au quotidien sur les choses qui sont certaines que Dieu m'a données. Dieu m'a donné son esprit. Dieu m'a donné sa force. Dieu m'a donné son amour. Dieu m'a donné l'éternité. Dieu m'a donné le corps de Christ. Dieu m'a donné sa parole pour me nourrir. Dieu m'a donné des œuvres à accomplir aujourd'hui. Mon bonheur, mon épanouissement aujourd'hui se trouve là, se trouve dans ces choses-là. Et le reste, ce sont des désirs, des aspirations que j'apporte dans la prière à Dieu. Est-ce que ça, c'est clair? Ça va? Est-ce que vous avez des questions sur ça? Juste sur fonder sa vie sur les certitudes que Dieu donne dans la parole. Oui, Sam? Oui.
Puis à quel stade qu'on peut se permettre d'obtenir de la compassion?
Tu veux dire de la part des frères et sœurs? Ouais. C'est sûr. Mais tout le temps?
Mais à cause que, je veux dire, au point, à quel stade qu'on peut se permettre d'avoir de la compassion sans qu'on nous accuse que c'est l'idolâtrie et qu'on doit se craper tout seul? C'est ça la question.
Mais j'espère tout le temps, Sam. Je veux dire, si c'est pas ça ton expérience, c'est que les gens qui l'expriment autour de toi sont peut-être pas matures. C'est très... Vas-y.
Je fais référence aussi à ce que tu as dit au début.
Oui.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que, exemple, si quelqu'un qui a faim, qui a pas à manger, on lui chaude, l'homme ne lui aura pas de pain seulement, ça serait quelque chose qui va...
Veux-tu vraiment ma réponse? Je pense que ça serait franchement stupide. Je vais le dire avec ces mots-là. Mais remarquez que Jésus ne shoote pas ça à quelqu'un qui a faim, il shoote ça au diable qui veut le tenter. Hein? Fait que pas de problème. Celui qui a faim et qui veut lutter contre la tentation d'aller voler, mettons, hein? C'est, dans les proverbes, c'est présenté comme ça. Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin, de peur que je ne vole. Ben c'est lui qui devrait citer ce verset-là. D'accord? Donc, ouais, c'est ça. C'est tout un autre volet, là, Sam, mais. Je veux dire, quand on veut prendre soin des frères et sœurs autour de nous, même d'un non-chrétien, je dois premièrement être à l'écoute. Je n'ai pas le droit de commencer à sortir la parole de Dieu tant que je n'ai pas entendu, à mon avis, à moi, 2 choses. Tant que je n'ai pas entendu la personne, qu'est-ce qu'elle est en train de vivre, puis tant que je n'ai pas l'impression d'avoir une idée de ce que l'Esprit est en train de faire comme œuvre. D'accord? Je pense que ces 2 choses-là doivent être présentes. La différence... Un contexte différent, c'est celui que moi je vis, qui ressemble à celui du prophète qui est là puis qui prêche à une foule, tu comprends? Fait que si jamais vous vous retrouvez à témoigner devant votre classe à l'école, ça a commencé avec un dialogue avec une personne, puis après ça, vous êtes comme en train un peu de discourir à 7-8 personnes. Tu n'as plus besoin de mettre tes gants blancs, tu peux comme dans un sens, parce que tu n'es pas en train comme d'aller accuser quelqu'un, tu es juste en train de dire, regarde, Je te dis ce qu'il y en a, ces chapeaux de femelle-là, c'est tout. Fait que quand je prêche, c'est ça qui fait que des fois, je suis cinglant. La semaine dernière, j'ai dit, bon, je ne sais pas si je vous ai offensé. Si c'est le cas, je suis un peu content. Fait que, mais je veux dire, je ne peux pas faire ça un à un. Ben, oui, je pourrais le faire si j'ai écouté la personne, j'ai vu l'œuvre de l'esprit, puis tableau, la personne est hyper rebelle, est orgueilleuse, elle ne veut rien savoir. Ça se peut que j'arrive à un endroit où je dis, man, il y a des textes dans la Bible qui parlent de toi, un sépulcre blanchi. Ça se peut qu'on soit rendu là. Ça se peut que je le fasse, mais je me suis mérité le droit de me rendre là en écoutant la personne puis en écoutant l'œuvre de l'esprit. Avant ça, tu n'as pas d'affaire à faire des affaires de même. Fait que on a toujours le droit à la compassion des frères et sœurs. On a toujours le droit, même quand on est dans le péché, on a encore le droit à la compassion des frères et sœurs. Je ne pense pas avoir mis quelqu'un en discipline dans l'Église qui me disait au moment où je le faisais que je ne l'aimais pas. Je ne pense pas que j'ai vécu ça. Chaque fois, même lorsque je m'arrange jusque-là, les gens savent, perçoivent mon amour. Fait que la compassion doit toujours être manifeste. Deuxième idole, la solitude. Fait que vous voyez, c'est un petit peu comme, si je prends la question de Sam, juste dit comme ça, c'est un peu bête, là. La solitude pour une personne célibataire, c'est une idole. Non, ça peut être une idole. D'accord? Mais c'est définitivement une réalité. Il peut y avoir de la solitude parce que la personne est seule. Les mensonges de la solitude, c'est qu'il doit y avoir un problème en moi. Donc, ça, c'est des pistes qu'on vous donne pour réfléchir, pour voir s'il y a quelque chose qui est pas biblique dans votre vision. Il doit y avoir un problème en moi. Bien, peut-être, je vais dans la prière, mais de rester collé là puis de dire « je suis seul parce qu'il y a un problème en moi », ça peut vraiment être un mensonge, d'accord? Qui peut venir de la chair, qui peut venir du diable. Dieu ne se préoccupe pas de moi. De toute évidence, dans ce cas-là, c'est un mensonge, mais c'est quelque chose qu'on peut vraiment expérimenter, le sentiment que Dieu ne s'occupe pas de nous. Personne ne comprend ou ne se préoccupe de ce que je vis. On est pas mal dans la compassion, Sam. Personne ne comprend ou ne se préoccupe de ce que je vis. Personne n'expérimente cette solitude-là. Je serai toujours seul, ce qui serait potentiellement un mensonge aussi. Si j'étais marié, je ne vivrais plus de solitude. C'est définitivement un mensonge. Donc, l'idole, la solitude peut devenir une idole pour la personne seule, qui peut l'amener à croire toutes sortes de mensonges qu'elle va nourrir, puis elle va rester dans un état pitoyable. D'accord? Oui. Antoine. Comment est-ce qu'on peut l'aider? Oui. 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 Comment aider quelqu'un qui souffre de solitude puis qui est pris avec le mensonge que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en elle? C'est ça? C'est ça ta question? Bien, moi, je vous dirais la chose la plus importante, je pense que te connaissant un petit peu, là, Antoine, je pense que tu le fais naturellement, là, mais la chose la plus importante avec quelqu'un qui souffre, c'est d'être à ses côtés. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est pour ça que lorsque Sam me demande quand est-ce qu'on doit avoir de la compassion ou qu'on a le droit d'avoir de la compassion, c'est tout le temps. La personne qui souffre, la première chose qu'elle a besoin, c'est pas des réponses, c'est pas qu'on corrige le tir, c'est pas qu'on enlève les mensonges de sa tête, c'est qu'on marche à ses côtés. D'accord? C'est qu'on soit présent à ses côtés. Quand je vais visiter quelqu'un à l'hôpital qui a vécu n'importe quoi, la chose la plus importante que j'ai à l'esprit, c'est que cette personne-là sente que je suis là pour elle lorsque je vais la visiter. Déjà, si tu as fait ça, tu as fait un bon bout de chemin. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais faire? Encore une fois, je vais être à l'écoute. Je vais être à l'écoute de la personne. Bon, ça, c'est moi, là, dans mon approche, mais je le fais toujours dans le coaching, je le fais généralement à peu près dans toutes les rencontres. Je veux être à l'écoute, comme je dis, de l'œuvre que l'Esprit est en train de faire dans la personne. Donc, je l'ai écoutée, elle, mais je veux savoir où est-ce qu'elle est rendue. Est-ce qu'elle est ouverte? Est-ce que Dieu a déjà commencé à y montrer que c'était un mensonge dans lequel elle croyait? Je veux voir qu'est-ce qui se passe là. Puis comment est-ce que je vais faire ça concrètement? Bien, je vais envoyer des coups de sonde. Je vais poser des questions. Je vais aborder un passage. Puis en faisant ça, je vois sa réponse, je vois comment ça va. Puis, fait que des fois, par exemple, dans le coaching, ce que je vais vivre, c'est qu'il y a des choses, je suis convaincu que Dieu veut adresser quelque chose dans la vie de quelqu'un. J'ai absolument convaincu, je le coach, je le connais, je sais que c'est à travailler. Mais je ne sais pas s'il est rendu là avec Dieu. Fait que je lance des coups de sonde, j'évalue à la lumière de la réponse. Est-ce que c'est de la rébellion? Je l'ai abordé, il ne comprend rien. ne comprend rien. C'est comme un concept, c'est abstrait. Puis j'ai beau commencer à expliquer, c'est pas là. Il y a quand même besoin d'une lumière que l'Esprit va apporter. Moi, dans mon cas, je me prends des notes. Je dis, OK, Seigneur, ça va être quand ça va être ton temps? On va revenir là-dessus quand ça va être le bon moment. Fait que je suis à l'écoute. Fait que qu'est-ce que je ferais dans ces cas-là? C'est ça que je ferais. Puis, un petit peu plus loin, on voit des passages. Fait que j'irai dans les Écritures avec cette personne-là. D'accord? Oui, Caro. Oui. Mm-hmm. Dans ta perspective à toi.
Oui.
C'est un bon point. Oui, c'est un bon point. Fait que ça fait partie de l'écoute. Admettons, avant de prendre la parole, je vais m'assurer que le combat qu'il ou elle vit, dans le fond, on a la même nature. Ça peut prendre d'autres formes, mais on se ressemble beaucoup. Parce que quand je vais ouvrir la parole à ce moment-là, la compassion dont parlait Sam, dans le fond, c'est ça qui manque là, quand les gens viennent, c'est qu'ils se disent « Ah, que tu es faible. Si j'étais dans ta condition, je ne vivrais pas ce que tu vis. » Fait que cette personne-là peut réaliser que dans le fond, il y a plein d'autres domaines dans sa vie où probablement elle se comporte de la même manière. D'accord? Fait que c'est un petit peu ça l'idée. Oui, merci Caro. Fait que, puis à ce moment-là, je gagne le droit d'aller vers la personne, puis d'aller dire quelque chose tranquillement, juste soumettre des réflexions. On va essayer de terminer sur cette question-là, Jason puis Paul. Juste bien fort, s'il te plaît. Excellente question. Fait que si je vois quelqu'un qui souffre de solitude, puis moi, je ne vois pas que j'ai le temps de le faire ou d'intervenir, tout ça, je vais avoir le temps de jouer au super spirituel, OK? Mais c'est la meilleure réponse que je peux vous donner. C'est qu'on ne prie pas assez. Parce que ça fait quelques années que j'enseigne ça à l'Église, puis j'espère que tranquillement, comme vous allez le saisir, comme chrétien, je lis la parole de Dieu, puis j'ai l'Esprit Saint en moi. Fait que quand, mettons, Jason, tu vois un besoin, ce besoin-là, Dieu l'a déjà vu. OK? On se comprend, je disais même théoriquement, là, Dieu est plus sharp que toi puis moi. Fait que Dieu l'a déjà vu. Mais moi, je vais un pas plus loin que ça. Le prophète dans l'Ancien Testament apportait pas juste un message de Dieu. Le prophète portait en lui puis expérimentait le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Fait que le prophète souffrait littéralement, puis c'est le problème de Jonas. Jonas, dans le fond, refuse d'être le prophète de Dieu parce qu'il refuse de déposer le même regard sur Ninive que Dieu veut qu'il dépose sur Ninive. Jonas refuse d'avoir de la compassion pour Ninive. Il refuse de les aimer comme Dieu les aime. Donc, il refuse vraiment d'être le prophète de Dieu. Tout ce qu'il va pouvoir faire, c'est aller donner un message, mais il ne l'a jamais vécu. Ce qu'on voit constamment dans l'Ancien Testament, c'est que les prophètes portaient, ils vivaient, ils portaient dans leur trip. Où je m'en vais avec tout ça, c'est pas juste la théorie. Ce que toi, t'expérimentes, on peut penser que ça vient de toi, mais ça vient pas juste de toi, ça vient de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et donc, moi, la manière que je porte ces choses-là, c'est que je dis, Seigneur, t'as porté ce besoin-là à mon attention, j'ai pas, moi, le temps de le voir, mais parce que je ressens la compassion, puis j'aimerais que quelqu'un puisse prendre soin, je comprends, Seigneur, que toi, t'as de la compassion. Puis là, dans le fond, je m'en vais dans la prière. Parce que je suis vraiment en symbiose. Mon cœur bat au rythme du cœur de Dieu pour cette situation-là. C'est Dieu qui l'a porté à mon attention. Et donc, il faut apprendre à prier parce que l'Église qui est là, souvent le réflexe qu'on va faire, l'autre réponse que j'aurais pu te donner, qui d'après moi n'est pas la bonne, c'est qu'on va aller chercher quelqu'un dans l'Église qui va pouvoir le faire. C'est correct, je peux le faire, je peux porter ça à l'attention de quelqu'un d'autre. Si Dieu n'a pas fait vibrer le cœur de la personne comme toi, tu l'as pour cette situation-là, tu vas être bien frustré contre l'Église. Tu vas dire, l'Église n'est pas là, elle ne fait jamais sa job. Tu sais. Mais c'est parce que tu penses que l'Église, il faut juste lui donner un cours théorique puis elle va se mettre à faire la volonté de Dieu. Ça ne marche pas de même. C'est l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'Église. Donc, je ne te dis pas qu'il ne faut pas aller vers quelqu'un et lui dire, regarde, pourrais-tu, s'il te plaît, t'occuper de telle personne? Moi, je n'ai pas le temps. Définitivement, on peut le faire. C'est la deuxième chose à faire. Parce que lorsque tu l'aurais senti, ça ne veut même pas dire que Dieu t'a dit de bouger. Peut-être que Dieu t'a juste dit de prier. Mais notre réflexe à nous, hein, dans une église où le pasteur ne vous a pas beaucoup incarné un modèle de prière, notre réflexe à nous, c'est de passer à l'action. Au lieu d'aller dans la prière et croire que c'est là que ça se passe. Paul, très brièvement, je ne pourrais pas te prendre fleur là-dessus, je m'excuse parce que je ne couvrirai pas la petite leçon. Absolument. Ouais. Il avait besoin de compassion. Tu veux-tu répéter ta... Excuse-moi, vas-y. Répète-moi la référence, s'il te plaît, juste pour l'enregistrement. Job 6, 14. Mais oui, Jésus est sur la croix. Il prie pour les salauds qui sont en train, qui l'ont conduit sur la croix. Tu sais? Puis il y a compassion d'eux. Fait que, quand est-ce qu'on a le droit d'avoir de la compassion? Ben, je te dirais au moins jusqu'à temps que tu sois en enfer. Rendu là, peut-être que ça va être plus difficile. Tu sais? Mais je veux dire, au moins jusque-là, ça c'est clair. Au ciel, je pense que je n'aurai pas de compassion. Je veux juste voir la justice de Dieu, puis je vais être en train de célébrer Dieu. Mais jusque-là, tout le temps. OK, on continue. Indépendance. Alors, une des idoles, je m'excuse, la solitude, l'indépendance. Alors, une des idoles qui se présente à la personne seule, c'est qu'elle est indépendante. C'est pas ça que Paul a enseigné. La personne qui est mariée doit se consacrer énormément à servir son conjoint. La personne qui est célibataire est libre de servir Dieu. D'accord? Donc, si pour vous, vous dites, moi, je ne me marierai pas parce que c'est beaucoup trop demandant, puis je veux voir la terre entière, puis je veux triper, puis je veux vivre un paquet d'affaires, il y a vraiment un gros morceau qui te manque dans ce que c'est la vie chrétienne. Il y a un énorme morceau. Ton appel est juste différent. Mais en fait, Paul dit que toi, tu as plus de temps. Si je voulais extrapoler les personnes qui ont le plus de temps pour servir à l'extérieur de leur maison, admettons, là, si je veux mettre ça simpliste, puis servir dans l'église, puis servir sur le champ missionnaire, tout ça, c'est les personnes célibataires. D'accord? Parce qu'une grande partie du service de la personne mariée se trouve à la maison. Ça va? Donc, ça serait une idole. C'est moi qui dirige ma vie entièrement. Le temps et l'argent. Comme personne célibataire, j'ai la liberté de faire ce que je veux avec mon temps, ce que je veux avec mon argent. Ben, ça veut dire qu'une personne célibataire est moins serviteur de Christ qu'une personne mariée, c'est ça que ça veut dire? Non, pas du tout. Pas du tout, mon appel est différent seulement. Le travail. Sans époux ni enfant, je peux livrer mon corps et mon âme à ma carrière. Je peux être un carriériste parce que je suis célibataire. Ça va être une idole, ça va être l'idole de la carrière, d'accord? La sexualité. Dans le monde où l'on vit, je vais me donner une vie sexuelle adaptée à mon célibat. Honnêtement, puis je ne vais pas développer sur ça ce matin, je sais que ce serait intéressant là, de le faire. Honnêtement, j'ai beaucoup de difficultés à concevoir quelques formes de sexualité seule, là, okay, parce que j'imagine que c'est de ça qu'on parle dans le cas du célibat, qui ne va jamais conduire à une forme d'idolâtrie quelconque. D'accord? Dans le mariage, les gens qui vont vivre de la sexualité seuls, avec la masturbation et tout ça, imaginons, je vais vous donner un exemple assez cru, là. Imaginons qu'un homme est une femme est mariée, un homme est marié, son conjoint devient quadriplégique, il n'y a plus de sexualité, tout ça. Puis la personne se dit, ben j'ai encore des besoins, il faut que je vais les satisfaire. La vérité, c'est qu'après quelques temps, elle va être en train de faire l'amour dans sa tête avec quelqu'un d'autre que son épouse, même si c'était son épouse à qui il pensait. Parce qu'il n'est sûrement pas en train de penser à son épouse quadriplégique. D'accord? Fait que la difficulté, vraiment, c'est ça. Fait que l'approche qui dit, ben moi, je vais comme m'entretenir sexuellement avec la masturbation, des choses comme ça, ça ne te prépare en rien au mariage. Zéro pin bar, je te garantis. Si demain, t'es appelé à te marier, il va falloir que tu réapprennes complètement la sexualité. Parce que tout ce que tu as appris, c'est que cette affaire-là, ça servait à ton bonheur. Ça ne marche vraiment pas dans le mariage. 23 ans de mariage, ça ne marche pas dans le mariage. Si tu vas voir la sexualité et tu te dis, « Ouh, ça, c'est pour mon bonheur. » Ça va être long, long, long ton mariage, mon copain. C'est pour votre bonheur. Fait que ça te prépare en rien au mariage. Et selon toute probabilité dans notre société, ça te prépare à toutes sortes de choses fausses. Fait que, honnêtement, l'abstinence est beaucoup plus probante de sainteté que le contraire, si vous me demandez. Si vous me demandez si j'ai un verset clair là, à mettre devant vous, je n'ai pas un verset clair à mettre devant vous. Mais tout va dans cette direction-là. Okay? Puis je sais que ce n'est pas tout le monde qui va être d'accord avec moi sur ça. Je comprends ça, je conçois ça. Dieu n'a pas créé ça pour ça. D'accord? Puis on aurait pu faire toute une leçon sur ça, même dans le cadre du mariage. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez me les envoyer. Je vais essayer de prendre le temps de répondre peut-être plus hors ligne. Puis je vais réfléchir pour une prochaine édition du cours si je décide d'aller beaucoup plus loin sur ça. Mais comme le sujet de la semaine dernière, je ne m'attends pas à ce que tout le monde soit heureux avec ma réponse. Les enfants, spécialement pour les femmes, l'impossibilité d'avoir un enfant peut amener toutes sortes de questionnements sur l'accomplissement personnel. Les femmes, beaucoup plus que les hommes, estiment que leur réalisation, leur accomplissement personnel se trouve dans les enfants qu'ils vont avoir. D'accord? Encore aujourd'hui, c'est beaucoup plus présent chez les femmes. C'est super clair dans la Bible. C'est super. C'était une honte profonde pour une femme d'être stérile puis de ne pas avoir d'enfant si elle était mariée. D'accord? Puis c'est une thématique constante. Mais ça peut vraiment devenir une idole. Ça peut vraiment devenir une idole où il y a un paquet de mensonges qui vont là. Oui, Camille? Oui.
Parce que si ça t'est pas donné, que ton enfant suit pas le Seigneur, que ça t'anéantit, puis que tu n'as plus rien avec Dieu à cause de ça, c'est là que ça devient.
Oui, absolument. C'est comme toute chose bonne. Donc, les enfants font la fierté de leurs parents, on espère. Les enfants font la joie de leurs parents, on espère. Mais si c'est ça qui est la source de mon accomplissement, de ma réalisation personnelle, d'abord, c'est super malsain. Je ne vous souhaite pas d'avoir d'enfants si c'est ça que vous croyez, parce que vos enfants risquent d'être bien malheureux. Mais fait que c'est super malsain, là. Mais ce n'est pas juste ça, c'est que ça devient une idole. D'accord? Donc, comme toute chose bonne qui est un élément du bonheur, qui est un aspect du bonheur, si ça prend la place de Dieu dans mon cœur, puis si ça devient une condition essentielle à mon bonheur, là, j'ai un indice que cette chose-là est en train de devenir une idole. D'accord? Et je pense que c'en est une particulière pour les femmes qui se disent « j'aurais voulu m'accomplir, j'aurais voulu me réaliser en ayant des enfants. » D'accord? Mais je ne suis pas en train de dire. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment comprendre la nature corrompue de notre cœur qui fait qu'on, c'est ça que Paul expose dans Romains 1, on dénature des choses bonnes. On prend quelque chose qui est bon, puis on le pervertit parce qu'on on tasse Dieu du centre. Piper avait cette très, très belle illustration-là sur la sexualité avec simplement le soleil. Il dit « Dieu est le soleil ». Et tous les autres éléments de ma vie sont des planètes, des étoiles, des choses qui gravitent autour du soleil. Lorsque la sexualité vient prendre la place de Dieu au centre, tout est désordonné. Cet univers-là va s'effondrer. D'accord? Mais il faut vraiment que Dieu soit l'élément autour de quoi toute chose va graviter. Et donc, pour les femmes, je pense que c'en est un particulier pour les femmes, le désir de se réaliser à travers des enfants. Ça peut devenir une idole. C'est une chose bonne en soi de désirer des enfants. Dieu nous parle de la solitude. C'est quelque chose, c'est un des thèmes les plus présents dans la Bible. D'accord? Et donc, ça revient constamment dans les psaumes, constamment dans la marche d'Israël. Deutéronome 31:8, l'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains rien et ne t'effraie point. Psaume 46:2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque pas jamais dans la détresse. Ça revient dans le Nouveau Testament et c'est ce grand privilège qu'on a d'être en communion avec l'Esprit-Saint. Je ne vous laisserai point orphelin, je viendrai à vous. La promesse que Jésus donne ici, c'est qu'il va venir sous la forme de l'Esprit, l'Esprit de Christ qui habite en nous. Apocalypse 21:3, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc, la thématique de la solitude est très présente dans la Bible. Je vais vous laisser lire la fin. Oups, je viens juste de perdre ma page, je m'excuse. Je vais vous laisser lire la fin. On aborde un petit peu l'idée, qu'est-ce que ce n'est pas le contentement? Comment décrire le contentement dans la vie d'un célibataire? Quatre éléments, ce que ce n'est pas le contentement, et qu'est-ce que c'est le contentement? Puis, comment est-ce que je vais apprendre à grandir dans mon contentement? Je vais terminer avec ça juste en les lisant. En apprenant à ne pas dépendre des conditions de ma vie. C'est frappant, on l'a mentionné un petit peu l'autre semaine, c'est frappant à quel point dans le Nouveau Testament, on doit apprendre à se voir comme des nomades, des pèlerins, des gens qui sont en voyage avec un très petit baluchon sur l'épaule. Et ça, c'est vrai pour tous les chrétiens. Et donc, il faut que j'apprenne à vivre le contentement, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances, que dans mon mariage, dans mon célibat, avec mes enfants, avec ma santé, avec mon travail, là où je vis, est-ce que Dieu a pourvu à tous les besoins que moi, j'aurais voulu qu'il pourvoie ou non? Je dois vraiment apprendre à être un pèlerin qui voyage avec un tout petit baluchon sur les épaules. Servir mon prochain, c'est à travers le service du prochain, entre autres, qu'on apprend le contentement. Ça me frappe, j'écoute beaucoup de trucs sur des pensées humanistes de construction de soi, puis des choses comme ça, puis ça me frappe à quel point les gens dans le monde énoncent souvent des principes qui sont bibliques en réalité. Et j'entendais ça encore dernièrement, une des meilleures manières d'être heureux, c'est d'être en train de servir quelqu'un, plutôt que de se servir soi-même. Puis c'est tellement là dans les Écritures. Et donc, en apprenant à servir mon prochain, c'est quand je suis concentré sur ce que je sens qui me manque dans ma vie, plutôt qu'être concentré à servir mon prochain, c'est là que je vais nourrir ces idoles-là potentielles. Bâtir des relations édifiantes. Si vous êtes insatisfait de vos relations d'amitié, poursuivez-le avec Dieu. Parce qu'il y a vraiment une richesse énorme à expérimenter dans la foi chrétienne au niveau des amitiés. Et je comprends que c'est peut-être plus une source de souffrance pour vous, mais poursuivez-le dans la prière avec Dieu, cherchez à grandir dans ça. Apprenez à être un bon ami avant de chercher des bons amis. Trouvez la sagesse dans la gestion du temps, de l'argent et du travail pour pouvoir vivre le contentement. Faire confiance à notre Père céleste que son plan et sa volonté est ce qu'il y a de meilleur pour moi. Il y a deux manières d'apprendre à faire confiance que la volonté de Dieu est vraiment bonne pour moi. C'est apprendre à lui laisser ce que j'aimerais avoir qu'il ne m'a pas donné et apprendre à lui laisser ce que j'avais et qu'il m'a retiré. Est-ce que vous me suivez? Puis c'est à apprendre dans les deux cas. Je désire avoir quelque chose qu'il ne m'a pas donné. J'apprends à lui faire confiance que sa volonté est parfaite pour moi en lui remettant ça. J'avais quelque chose qu'il m'a retiré. J'apprends à lui faire confiance que sa volonté est parfaite pour moi en lui remettant ça. Ça va? Être patient et s'en remettre à Dieu. Et puis, ultimement, c'est apprendre à marcher en gardant les yeux fixés sur le retour de Christ. C'est vraiment ça. C'est vrai dans tous les cas. Cette vie est courte et ce qui importe est de se préparer pour celle qui vient en Jésus-Christ. On va terminer avec un mot de prière. Père éternel, merci pour tes grâces. Merci pour ta parole qui est si riche. Seigneur, je te prie de nous faire grandir, Seigneur. Je te prie de nous faire grandir en Jésus-Christ. Je te prie, Père, de former Christ en nous. Quelle que soit notre condition, nos appels, je te prie, Seigneur, de faire cela afin que tu sois glorifié et que nous soyons contents en toi, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen.